Bienvenue à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette conférence donc, en partenariat entre la Société de philosophie de Bordeaux et la librairie Mola. Nous avons le plaisir donc, d'accueillir aujourd'hui Jean-Claude Monod. Jean-Claude Monod est chargé de recherche au CNRS, plus précisément aux archives Husserl à Paris. Il enseigne également à l'École normale supérieure. Et ses travaux portent pour l'essentiel sur la philosophie allemande, post-hégélienne, sur la philosophie politique, et en particulier sur la question des rapports entre politique, religion et modernité. Alors parmi, dans sa longue bibliographie, je citerai seulement les ouvrages parus récemment. Donc La querelle de la sécularisation, de Hegel à Blumenberg, Vrin 2002. Penser l'ennemi, affronter l'exception, réflexion critique sur l'actualité de Carl Schmitt. La découverte, 2007. Hans Blumenberg, encore, chez Belin, en 2007. Sécularisation et laïcité, toujours en 2007. Et cette année, donc, l'ouvrage, enfin, l'année dernière, donc, l'ouvrage pour lequel il vient ce soir, Qu'est-ce qu'un chef en démocratie, sous-titré Politique du charisme, sans doute nous en dira-t-il un peu plus dans quelques instants, paru au Seuil, donc, et je lui laisse tout de suite la parole. Merci d'être avec nous ce soir.
Merci beaucoup Céline, merci pour cette invitation, merci à vous. Alors, ce livre donc, qui porte ce titre, Qu'est-ce qu'un chef en démocratie, a rencontré certains échos dans l'actualité, mais c'est un livre de philosophie, il est publié dans une collection qui s'appelle L'Ordre philosophique. Et il y a éventuellement, dans la réception d'un livre de philosophie, des choses qui peuvent surprendre son auteur. Et notamment ici, j'ai eu la surprise de constater que beaucoup de lecteurs, plutôt de peut-être des journalistes d'ailleurs, donc plutôt des gens qui sont dans l'actualité, s'interroger immédiatement pour savoir si c'était un livre sur François Hollande, si c'était un livre sur la guerre des chefs à l'UMP, si c'était un livre donc, tout à fait déterminé par une actualité immédiate. Or, ça n'est pas le cas. C'est un livre que j'écris depuis plusieurs années et dont le point de départ, Céline Spector a rappelé ce travail antérieur sur la sécularisation. Et au fond, le point de départ du livre, c'est une question qui rejoint ces interrogations sur l'histoire moderne, disons, dans ses relations avec la religion et dans la relation entre religion et politique dans la modernité. Et comme vous le savez, un des auteurs qui a creusé cette question, c'est certainement Max Weber. Max Weber, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup consacré, qui s'est beaucoup interrogé sur à la fois la spécificité de la civilisation occidentale et la spécificité peut-être de la modernité au sein de cette histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut passer chez Weber et au-delà de Weber d'une interrogation sur cette histoire de longue durée à une interrogation sur le chef ou le charisme? Et parce que vous le savez certainement aussi, donc Weber a tenté ce qu'il appelait une typologie des grandes formes de légitimité et de légitimation du pouvoir politique. Je rappelle juste cette grande typologie, ces grands types de légitimité. L'idée de Weber étant qu'un pouvoir ne fonctionne jamais seulement à la coercition, mais cherche toujours à obtenir, au fond, une forme de reconnaissance subjective, en quelque sorte, de la part des dominés, et s'appuie sur certains sentiments au sein des populations. Donc les trois grands types de légitimité qu'il distingue, c'est d'abord la légitimité traditionnelle, c'est-à-dire le fait d'obéir aux lois ou aux coutumes, bien parce que elles sont déjà là et elles ont été là depuis longtemps, et au fond c'est une des plus puissantes forces de légitimation de quoi que ce soit que de dire que c'est là depuis longtemps, ça existe depuis longtemps, et si ça existe depuis longtemps, il devait y avoir une bonne raison pour que ça existe depuis longtemps. Et donc cette légitimation traditionnelle est un des grands modes de légitimité de tout pouvoir, plus ou moins poussé selon les époques et selon les types de sociétés. Un second grand type de légitimité, c'est la légitimité qu'il appelle légal rationnel, et donc là il s'agit d'obéir à la loi parce que elle est édictée ou elle est énoncée par au fond des agents qui ont précisément la qualité pour le faire. Alors, ça a l'air un peu circulaire, mais ça n'est pas tant que ça, c'est-à-dire il y a des gens qui sont désignés comme les producteurs de la loi et qui sont éventuellement des spécialistes de la loi, et donc voilà, on va obéir aussi à la loi parce que c'est la loi, parce que c'est la légalité, et parce que cette légalité s'étaye aussi souvent d'un système de justification voilà, qui explique pourquoi elle est ainsi. Le troisième grand type de légitimité, donc j'en viens à ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que Weber appelle la légitimité charismatique. Alors, comme vous le savez, charisme, c'est un mot qui vient du grec charisma, qui veut dire le don, la grâce. Et donc ici, c'est un type de légitimité qui ne va ni à la tradition, à la légitimation par le passé ou par l'ancestralité, qui ne va pas non plus à la légitimité de ce qui paraît bien construit et émaner des autorités qui ont vocation à faire la loi. C'est un type de légitimité qui est beaucoup plus émotionnel et personnel et qui naît donc d'un rapport à un individu qui paraît extraordinaire, qui paraît doté de qualités qui sortent de l'ordinaire. Alors, ces qualités qui sortent de l'ordinaire, elles peuvent être extrêmement variées, bien sûr. Weber énumère des exemples, comme toujours, pour donner des chairs empiriques à ces grands types. Il donne des exemples de charisme. Ça peut être le charisme du prophète. Ça peut être le charisme du guerrier auréolé de gloire. Ça peut être le charisme du grand tribun dans une, par exemple, dans la démocratie grecque. D'ailleurs, il y avait des sources assez différentes de charisme. L'idée étant qu'ici, c'est un personnage qui, en un sens, ne se réclame que de lui-même. Enfin, il peut faire appel, évidemment, à d'autres sources, mais disons, ce qui entraîne autour de lui une adhésion, c'est justement la croyance dans le fait qu'il est, croyance bien fondée ou non, mais qu'il est, voilà, qu'il sort de l'ordinaire, qu'il y a quelque chose en lui qui suscite l'admiration. Il arrive à agréger autour de lui un cercle de disciples, un cercle de partisans, etc. Alors, en quoi, me direz-vous, est-ce que cette question concernait la précédente que j'ai énoncée? Mais elle la concernait dans la mesure où on peut penser que, enfin, c'est une lecture possible, que le charisme est un mode de légitimation par excellence archaïque. C'est un mode de gestion personnelle, lié donc à un rapport émotionnel. Or, Weber nous dit qu'un des grands processus à l'œuvre dans la modernité, c'est la rationalisation. Rationalisation de tous les rapports sociaux qui se mettent à fonctionner de plus en plus suivant leurs propres normes et leurs propres logiques intrinsèques, et donc il y a une sorte d'exigence de rationalité. Donc ça, c'est un des points qui paraît peut-être en contradiction avec le charisme, qui lui est repose sur une forme d'émotion. Et d'autre part, Weber dit aussi que la modernité est caractérisée par un certain processus de sécularisation qui peut être défini de multiples manières, mais qui implique une certaine perte de force de la religion en tant que puissance hégémonique sur la vie sociale, sur l'ensemble de la vie sociale, et peut-être un certain déclin des croyances religieuses même. Alors, on peut se dire que dans ce contexte, le charisme doit être voué à décliner, voire à disparaître, puisque le charisme paraît lié à une croyance dans un certain extraordinaire, et le charisme paraît être reposé sur un rapport émotionnel plutôt que sur une forme de rationalité. Donc, voilà une question qui m'avait déjà intéressé dans ce travail sur la sécularisation, c'est de savoir si le charisme, déjà, est voué à disparaître comme forme importante de la vie politique, d'autre part, si il faut le considérer comme une sorte de reliquat religieux dans la modernité, Et voilà, en combinant les deux questions, de savoir si aussi c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, donc là au plan axiologique, que le maintien ou le déclin du charisme. Alors, on rejoint ici un autre aspect de la réflexion de Weber. Weber était un sociologue, historien sociologue, qui, quand il était historien sociologue, veillait bien à se départager entre le descriptif et l'effort et les prises de position personnelles. Mais c'était aussi ce qu'on peut appeler un intellectuel engagé, Max Weber. Et au début du XXe siècle, Weber, au fond, redéploie cette réflexion en se demandant si il est souhaitable que, pour une démocratie libérale, des formes de charisme subsistent, des formes, comme il dit, d'agir politique personnalisée, ou si, au fond, il faut défendre une idée de la démocratie beaucoup plus désincarnée et, au fond, où disparaîtrait cet élément potentiellement, au fond, instable, potentiellement émotionnel, potentiellement et peut-être fondamentalement archaïque. Et Weber répond par la négative, c'est-à-dire qu'il pense que la démocratie, si elle est privée de cette dimension du charisme, risque de devenir ce qu'il appelle une démocratie acéphale, une démocratie sans tête. Et en fait, cette démocratie sans tête ne sera pas du tout forcément plus favorable aux intérêts des dominés qu'une démocratie où un certain agir personnalisé subsiste. Notamment parce que, selon Weber, ce qui prend l'espace dans ce cas-là, ce qui prend l'espace de la personnalité politique, ce sont deux choses. C'est d'un côté ce qu'il appelait la bureaucratie et de l'autre côté ce qu'il appelait les puissances économiques. Je pense qu'on peut traduire ça de nos jours en disant que ce qui prendrait la place donc, de cette vie politique personnalisée, ce serait d'un côté les marchés et de l'autre côté la technocratie. Et donc l'idée de Weber, c'est qu'il fallait malgré tout défendre une certaine forme de domination charismatique ou de personnalité de dirigeant, s'interroger sur les mécanismes de sélection démocratique, favorable à l'émergence d'hommes de conviction et favorable à l'émergence d'hommes de conviction susceptibles de faire avancer la démocratie elle-même et de pousser le processus de démocratisation. Donc cette question-là, au fond, dans ce livre, moi j'ai un peu voulu reprendre cette question, enfin c'est prétentieux de le présenter comme ça, mais bon, reprendre cette question un siècle après et me demander si l'interrogation de Weber n'avait pas conservé ou même peut-être repris une certaine actualité. Donc voilà pour le sous-titre du livre, en un sens, politique du charisme pluriel. Alors, un siècle après, évidemment, on a aussi l'expérience de domination charismatique extrêmement néfaste, ou de ce que j'appelle dans le livre des formes de charisme pathologique. Bien entendu, on a l'expérience, au fond, de Hitler, de Mussolini. Bon, Staline apparaît comme assez peu charismatique. Il y a des débats. Il y a des débats pour chacun d'entre eux, en fait. D'ailleurs, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure pour savoir s'il faut penser des qualités exceptionnelles de ces dirigeants ou pas. Mais au fond, nous avons donc l'expérience de formes de domination charismatique pathologique. Enfin, voilà, posons-le au moins par hypothèse. Et a fortiori, si l'on songe à cette notion de chef, qui à vrai dire pour moi au début n'était pas du tout présente dans le livre, qui m'a été suggérée par mon éditrice, et qui d'ailleurs moi m'a fait un peu tomber de ma chaise, je veux dire, quand mon éditrice m'a dit j'ai une idée de titre, on va appeler ça « Qu'est-ce qu'un chef ?». Bon, moi je suis un peu un enfant de 68, etc., donc j'ai eu un mouvement de recul assez profond. Et puis, bon, ça m'a finalement un peu déplacé de ce cadre weberien très, très connu, très déjà bien balisé, discuté, etc. Et ça m'a un peu mis sur la piste. Au fond, je me suis dit, le charisme, c'est un terme introduit par Max Weber dans la sociologie politique, c'est un terme qui a une longue histoire de Saint Paul, bien sûr, qui est thématisé théologiquement par Saint Paul, mais qui, disons, comme terme de commentaires politiques, d'analyse politique, de sociologie politique, a un siècle à peu près derrière lui. Alors que chef, finalement, c'est un terme qui est omniprésent dans la littérature philosophique depuis les Grecs Et c'est aussi un terme qui est très présent, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais moi, bon, je trouve que j'ai aussi un intérêt atavique, puisque j'ai un père ethnologue pour l'anthropologie et l'ethnologie, et c'est un terme qui est extrêmement présent dans le champ de l'ethnologie et de l'anthropologie, des sociétés qu'on a longtemps dit primitives, mais qui sont souvent effectivement des sociétés à chefferie. Donc finalement, ça m'a intéressé d'autant plus qu'en travaillant du coup un peu sur ce thème et ce terme du chef, je me suis aperçu qu'il y avait une sorte de tradition un peu recouverte, un peu enfouie, qui était justement une tradition de pensée du chef démocratique. Et vraiment en tenant les deux termes ensemble. Ou du moins un effort pour essayer de distinguer profondément le chef de formes de domination qui n'auraient pas pour fondement l'égalité. Alors là, j'ai rencontré au fond deux auteurs qui m'ont un peu mis sur cette voie. Le premier, c'est un auteur du XXe siècle qui s'appelle Alexandre Kojève, que vous connaissez sûrement, surtout comme commentateur de Hegel. On le connaît surtout comme commentateur de Hegel, mais qui a écrit un petit livre très passionnant, publié très tard pour des raisons je n'évoque pas, mais qui sont intéressantes, qui s'appelle La notion de l'autorité. La notion de l'autorité, qu'il écrit en 42. Et c'est une réflexion que développe Kojève sur, justement, il essaye de distinguer des grands types d'autorité, et il dit, voilà, il y a l'autorité du père, il y a l'autorité du maître, il y a l'autorité du juge, et il y a l'autorité du chef. Et ce qui est très surprenant dans cette typologie, alors après il relie chacun de ces grandes figures à un moment ou un auteur privilégié qu'il aurait élaboré, et il dit que ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que finalement le chef, dans sa typologie, aurait été spécifiquement pensé par Aristote, et Aristote aurait pensé le chef en le distinguant très fortement de relations comme celle du maître d'esclave ou celle du père dans son foyer. Et évidemment, dans le cadre du foyer grec, c'était des relations très dissymétriques entre le père et les enfants ou entre le père et la mère. Et ce que dit Kojève, c'est que, effectivement, en remontant à des textes d'Aristote, ensuite, je suis remonté à Aristote. C'est ce travail de délimitation. Aristote dit attention, il ne faut surtout pas rabattre le chef politique dans la cité démocratique sur des figures comme celle du maître d'esclaves ou du père dans son foyer. Pourquoi ? Parce que le chef, c'est la relation de domination sur fond d'égalité. C'est une relation d'égalité, d'une certaine façon. C'est celui qui se dégage dans la cité, mais comme le premier des pères et pour un temps délimité. Donc c'est cette structure du chef qui est finalement simplement un membre de la cité qui assume à un moment une fonction d'autorité, mais qui ne peut jamais se penser comme étant par nature inégal. Ce qui est le cas pour Aristote, hein, dans le cadre de la conceptualité grecque et de la société grecque, du maître d'esclave qui est par nature différent de son esclave, et bien sûr de l'homme qui est par nature différent de la femme. À différents degrés d'ailleurs, il y a tout un dégradé dans cette vision des choses. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de constater effectivement qu'il y avait cette tradition, au fond inaugurée par Aristote, et prolongée par différents auteurs, je citerai un texte de Rousseau tout à l'heure, qui nous dit cette chose très surprenante, peut-être pour nous au début du XXIe siècle, selon laquelle, au fond, la relation du chef et des citoyens s'accepte, en fait, au régime des différences inégalitaires, et c'est une relation de délégation et au fond, sur fond d'égalité. Alors, il y a aussi des très beaux textes dans la tradition grecque des historiens, notamment de Xénophon, sur cette figure. Je cite un texte de Xénophon, je trouve très beau, que je reprends d'ailleurs de Kojève, sauf qu'il l'indique juste en note, donc j'ai été voir ça, et c'est un très beau texte où Xénophon parle dans l'Anabase d'un soldat, et au fond, le général a été, le roi a été tué, et donc les soldats sont laissés eux-mêmes, et ce soldat s'aperçoit que s'ils ne font rien, ils vont tous être décimés ou mis en esclavage par l'armée adverse. Et donc, ça l'empêche de dormir, il n'arrive pas à dormir. Donc, il va au milieu du camp et il dit aux autres, écoutez, voilà, si on ne fait rien, on est voué à l'esclavage ou à l'extermination. Et donc, il propose un mouvement, une action, il propose une vision de ce qui arrive. Déjà, il avertit d'un danger, et puis il propose une certaine direction d'action. Et Kojève, qui commande ce texte, dit, ben voilà, c'est ça la structure du chef, de la structure minimale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pressent un problème, un danger qui arrive, et qui propose une action. Mais ce soldat, c'est un soldat parmi tous. Et il monte un peu sur l'estrade pour parler, mais à part ça, voilà, il arrive à convaincre et à être suivi. Et ce n'est pas d'ailleurs foncièrement différent, dit Kojève, et je vais m'amuser, de ce qui se passe dans une cour de récréation. Mais ça, il faudra, bon, je pourrais y revenir. Donc, au fond, il y a cette tradition qui, me semble-t-il, a été un peu oubliée ou recouverte, et dont on trouve pourtant trace chez des auteurs républicains et chez des résistants. Ça m'a intéressé, mais je pense que je n'aurai pas le temps de l'évoquer. Alors, pourquoi a-t-elle été oubliée? Je pense pour deux grands motifs, un motif politique et un motif qu'on pourrait dire épistémologique ou historiographique. Alors, le motif idéologique, c'est bien sûr la captation autoritaire ou totalitaire de la figure du chef, bon, l'idée du chef, justement, tout court, le chef avec majuscule, le grand chef, éructant, etc., Big Brother, enfin bon, voilà, c'est la figure même du totalitarisme, d'une certaine façon. Je n'y insiste pas. L'autre raison, un peu peut-être moins évidente, et mais qui me semble intéressante, c'est au fond qu'on, bien sûr, notre vision de l'histoire, mais alors cette fois presque au plan de l'écriture de l'histoire, de l'historiographie, a elle-même beaucoup changé, notamment sous l'effet de conceptions qui ont dit qu'on avait beaucoup trop porté attention à ce qu'on appelait les grands hommes et très insuffisamment à l'histoire anonyme, à l'histoire de longue durée, à l'histoire des masses éventuellement, ou de classes sociales qui n'ont pas laissé d'archives, c'est pas les archives officielles, etc. Donc tout ce travail, on peut dire toute cette révision de l'écriture de l'histoire, on peut dire de Marx à l'école des annales, ou de, enfin, vous voyez, il y a tout un... a fait que la focalisation sur les grands personnages, sur le chef, etc., a pu apparaître comme une espèce de, au fond, de vision étriquée, bizarrement étriquée, et à la fois élitiste, souvent phallocentrique, et au fond décalée de la réalité de l'histoire. L'histoire avance au moins autant par les mouvements de personnes dont on a oublié le nom que par celle de l'action des dix grands hommes. Et donc ça, je pense, c'est une sorte de révolution dans l'historiographie qui est en un sens décisive et irréversible. Mais je crois que ça laisse ouvertes certaines interrogations, d'abord sur le rôle des individus dans l'histoire. Bon, il y avait ici des colloques qui avaient été organisés sur ce thème, sur le rôle de l'action historique. Et dans l'action historique, certains personnages ont quand même un pouvoir, éventuellement d'ailleurs de nuisance ou de transformation sociale, qui n'est pas du même ordre que celui de n'importe quel citoyen. Et c'est devenu là aussi, bon, je crois qu'il y a Nora qui vient demain, il avait écrit un article qui s'appelle Le retour de l'événement, qui était en disant que c'est assez difficile au XXe siècle de se dire que non, vous savez, les individus n'ont aucun impact dans la vie de millions de gens. Bon, il y a quand même quelques contre-exemples qui viennent à l'esprit. Et d'autre part, c'est aussi une question pour ce qu'on peut appeler la démocratie ou la République elle-même. Bien sûr, la démocratie ou la République, c'est une pensée de l'éminence de chacun. C'est une pensée de l'éminence de chaque citoyen qui fait qu'en un sens, il n'y a pas lieu de distinguer un citoyen d'un autre. Mais en même temps, là aussi, il y a cette tradition dont parle d'ailleurs très bien Hannah Arendt, par exemple, qui est que la démocratie grecque, mais pas seulement, ça naît aussi avec l'idée d'une sorte de structure de gloire ouverte, en quelque sorte. C'est-à-dire, on donne à admirer des gens qui justement sortent du peuple, de n'importe où, et qui s'illustrent d'une certaine façon dans leur action pour la cité, pour la communauté, etc. Et cette notion même de grand homme, ça m'a intéressé aussi, c'est de voir qu'elle a, elle a une généalogie démocratique. Il y a des travaux de l'historienne Mona Ozouf là-dessus qui montrent que c'est une notion qui s'est construite en opposition à celle du héros aristocrate issu des grandes familles et qui se distingue par ses exploits militaires. Le grand homme, c'est autre chose, c'est quelqu'un qui fait une œuvre au service de la communauté, qui peut être une œuvre scientifique, une œuvre intellectuelle, une œuvre politique. Et donc le grand homme s'institue dans l'institution du Panthéon, dans l'institution révolutionnaire en fait, du Panthéon. Donc ça, c'est un point qui, si vous voulez, plaide, me semble-t-il, en faveur d'une réflexion sur qui ne s'en tienne pas peut-être à cette idée que toute pensée d'un dirigeant, d'un chef peut-être, est vouée à prendre un tour antidémocratique. Même si dans mon livre, on me l'a d'ailleurs parfois reproché, parce qu'il y a un côté un peu, je dis que c'est un mobile et qui tourne pour essayer de faire voir les différentes facettes de la question, et le problème, m'a-t-on dit, c'est qu'un mobile, ça n'avance pas, ce qui est vrai. Un mobile, ça tourne sur soi-même. Mais donc, j'essaye de voir, bien sûr, les dangers de la figure du chef, et d'y revenir sans cesse, et d'essayer de montrer comment il y a un danger permanent pour la démocratie, bien sûr, la démocratie étant le pouvoir du peuple, par le peuple, d'être dévié de sa nature dès qu'un dirigeant prétend justement lui donner une impulsion, une direction. Mais je pense que si la démocratie doit éminemment se méfier des chefs, ça ne veut pas forcément dire qu'elle puisse tout à fait s'en passer. Et là-dessus, il y a justement cette question un peu incontournable qui est une dimension de ce que Weber appelait la conviction et au fond le fait de porter des valeurs, de porter des idées ou, comme disait Hegel, qui sur ce point on peut beaucoup reprendre beaucoup de choses à sa philosophie de l'histoire, mais au moins il y avait cette idée que ce qui fait d'ailleurs le grand homme, c'est qu'il incarne un principe, c'est cette idée de l'incarnation d'un principe, ou qu'il, en tout cas, il porte un principe. Et au fond, voilà, pour en venir au présent un peu, ce qui m'a intéressé, c'est que justement, on peut dire qu'aujourd'hui, dans la vie politique démocratique, il y a certainement beaucoup de personnalisation, en un sens péjoratif du terme, il y a certainement beaucoup de pipolisation, il y a certainement beaucoup d'ego, mais il y a peut-être peu, trop peu d'incarnation des principes, un élément de personnalité qui serait le fait justement de faire avancer des convictions et notamment les valeurs constitutives de la démocratie. Donc voilà, ça m'a acheminé vers ce questionnement, cette réflexion sur la possibilité de penser quelque chose comme un charisme démocratique. Alors un charisme démocratique, ça ne peut pas être simplement un charisme sanctionné par une élection, c'est un charisme victorieux, parce qu'on va dire, mais dans ce cas-là, au fond, Berlusconi, etc., c'est un charisme démocratique. Non, l'idée, c'est que ce soit un charisme qui, précisément, fait avancer les valeurs constitutives de la démocratie et qui apporte donc plus d'égalité, plus de liberté, une extension des droits qui fasse reculer, qui contribue à faire reculer des injustices ou de l'inégalité. Et donc, comment essayer de réfléchir à cette nature d'un charisme démocratique. Alors bon, moi j'essaie de le faire en remontant un peu aux Grecs eux-mêmes, à cette pensée de la fondation de la démocratie, qui, je crois, ça consiste toujours à poser des conditions, à poser des limites, à poser, vous voyez, des garde-fous contre le pouvoir personnel. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille liquider cette dimension de la politique pour des raisons sur lesquelles je conclurai tout à l'heure. Je pense que les conditions qui sont posées déjà par la démocratie grecque, c'est l'idée d'une circulation du charisme, c'est-à-dire le fait que le charisme n'est pas, situé seulement au sommet, c'est-à-dire qu'il y a des formes variées de charisme, et il y a des dirigeants qui peuvent en assumer des dimensions, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient, en quelque sorte, monopolisés au sommet. Il y a l'idée aussi, bien sûr, d'une circulation de l'autorité politique et des charges politiques, avec l'idée même des magistratures qui sont vouées à, avec des archontes, des personnages qui sont voués à redevenir des citoyens. Donc le pouvoir n'est pas la propriété de quelques lignées ou familles ou d'un homme. Et bien, donc c'est cette notion qui est déjà présente dans la démocratie grecque, de l'isonomie, c'est-à-dire de, au fond, l'égale distance de chacun à l'égard de la loi, ou du fait que chacun est également sous la loi. Et précisément, le charisme, même s'il a une dimension, comme disait Weber, potentiellement révolutionnaire, une dimension qui lui permet de s'opposer à la tradition, le charisme doit aussi toujours, je pense, veiller à rester, ou il faut veiller à ce qu'il reste sous la loi. Il y a une tension peut-être entre la nature de... disons de renouvellement jusqu'au point révolutionnaire potentiel, et le fait que la garantie au fond de maintien du charisme dans l'orbe de la démocratie, c'est qu'il reste sous la loi. Et c'est d'ailleurs précisément ce que Rousseau disait quant à la distinction entre maître et chef, en estimant que les maîtres, ceux qui se présentent prétendent maîtres, oublient qu'ils sont sous la loi et qu'un peuple libre, il disait ça dans les lettres écrites de la montagne, un peuple libre obéit mais ne sert pas, il a des chefs et non pas des maîtres. Vous voyez, on retrouve cette chose qu'on trouvait chez Aristote, c'est le peuple libre a des chefs auxquels il obéit, mais pas des maîtres qu'il sert. Et la distinction passe notamment par cette intercession du règne de la loi, dit-il, c'est-à-dire qu'en fait, le citoyen obéissant au chef obéit toujours aux lois et jamais simplement à la personne. Donc l'autre point, c'est bien sûr, bon là je n'y insiste pas à côté de Céline Spector, mais la reconnaissance de la pluralité de pouvoirs et d'instances, hein, d'une séparation des pouvoirs, donc ce principe moderne selon lequel il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, et pour empêcher tout cumul justement et toute régression vers un cumul de ces figures distinctes que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le chef démocratique ne doit jamais se prendre pour le père ou pour le juge ou pour le maître. Et ça, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut presque dresser une sorte de ligne, vous voyez, faire une sorte de ligne de progrès. Au fond, bon, on souvent... un âge un peu postmoderne de la philosophie, on a tendance à tenir toute idée de progrès pour une naïveté, mais moi il me semble que ce n'est pas le cas et qu'il y a des choses qu'on peut essayer de reprendre dans l'histoire comme marquant un certain progrès démocratique. Et je pense que ce progrès est souvent passé justement par ce travail de distinction et de délimitation qui font que, par exemple, c'est passé par une critique du paternalisme, hein, qu'on trouve sous les Lumières, avec Kant, etc. Des gens qui disent, écoutez, le gouvernant, voilà, il a une certaine charge, etc., mais il ne doit pas, par exemple, prétendre faire le bonheur du peuple à sa place, traiter le peuple comme un peuple d'enfants, etc. Il y a cette distinction très forte entre le gouvernant et le père qu'on trouve chez Kant, par exemple. Et je pense qu'on pourrait trouver ça aussi pour le juge, le maître, etc. Donc enfin, je pense qu'un chef démocratique ne doit pas, il ne faut pas penser qu'il... il ne faut pas le penser dans le cadre d'une opposition entre décision et délibération. Je crois qu'il y a une forme de décision qui doit être assumée par un dirigeant démocratique, mais qu'il ne s'agit pas de l'opposer, comme a pu le faire un auteur que j'ai beaucoup travaillé et qui est assez redoutable à certains égards, qui est Carl Schmitt, qui lui pensait vraiment l'opposition entre la décision qu'il valorisait et la délibération de ce qu'il appelait la classe discutante, c'est-à-dire les parlements, tout ça, qui discutent. Bon. Non, il ne s'agit pas d'opposer, il s'agit de penser leur complémentarité. Donc, vous voyez, ça, ce sont des conditions générales, mais en même temps, je crois que c'est un cadre fondamental à poser pour penser la possibilité d'un charisme démocratique et la nature démocratique d'un dirigeant. Maintenant, je crois qu'il faut aussi poser des conditions qualitatives qui distingueront ce dirigeant d'un simple charisme sanctionné par un mécanisme électoral, par un simple succès ou par aussi le simple emploi d'une forme de démagogie. Évidemment, il y a la question du charisme démagogique, si on veut, qui pourrait se poser ici. Et bon, les critères qu'on peut essayer d'élaborer pour penser ce charisme qualitativement démocratique, bien sûr, sont aussi fonction de nos propres préférences politiques, et de, etc. Mais je pense qu'on peut dire que ça doit être un charisme qui insuffle justement une relance de, qui relaye ce qu'on a pu appeler l'invention démocratique, c'est-à-dire justement le fait que la démocratie n'est pas figée et qu'elle doit être relancée par de nouveaux pas dans la reconnaissance des minorités, dans l'égalité, et qu'elle doit inventer des institutions et des mécanismes de protection des plus exposés socialement. D'ailleurs, là-dessus, c'était amusant parce que Aristote, lorsqu'il distingue les différents régimes, bon, j'ai fait là, pour l'instant un peu d'Aristote un penseur très démocratique, mais en fait, Aristote n'est pas vraiment favorable à la démocratie parce qu'il dit que la démocratie, c'est le régime qui veille surtout à l'intérêt des pauvres. Et il trouve que lui, il faut surtout veiller à l'intérêt des classes moyennes qui sont modérées par essence, alors que les pauvres sont un peu potentiellement animés par des formes de ressentiment, etc. Mais donc, je ne retiens pas ça d'Aristote, mais je retiens positivement presque l'idée que la démocratie, c'est peut-être le régime qui pourrait ou qui devrait être favorable préférentiellement, pas uniquement, mais aux pauvres. Et qu'il y a donc cette dimension où la démocratie, c'est ou ce devrait être le régime le plus favorable aux plus défavorisés. Le régime le plus favorable aux plus défavorisés. Et que donc le charisme démocratique, au fond, doit s'approcher toujours de cette forme-là. Alors ensuite, j'essaye de distinguer différents types de ce charisme démocratique en détaillant donc ce que j'appelle un charisme de fondation, un charisme de résistance et de libération, un charisme de justice et un charisme d'égalité. Alors je ne vais pas énumérer toutes ces sous-catégories et ces exemples, mais je donne quand même quelques exemples pour que ce soit plus parlant. Le charisme de fondation, c'est l'idée que souvent les démocraties ont été redevables à un moment ou à un autre d'une réinstitution ou d'une sortie d'une crise par une création institutionnelle. Ce que les Grecs appelaient d'ailleurs les nomothètes, hein, Solon, Lycurgue, les pères des institutions, et dont on peut trouver des exemples, je crois, dans toutes les démocraties. Vous trouvez ces figures de fondateurs, de pères fondateurs, etc. Alors, bon, le problème, là, on a des pères, mais on pourra revenir sur la... bon, alors en France, on peut avoir des exemples aussi. Le charisme de fondation, c'est parfois et souvent articulé à un charisme de résistance où on a souvent pris la suite. Bon, de certaine manière, on peut penser à De Gaulle, d'ailleurs, pour une certaine refondation républicaine après la Seconde Guerre mondiale. On peut penser aux chefs de réseau et de résistance. Mais on peut penser aussi à des figures de dissidents qui sont ensuite devenus, justement, qui ont eu la charge, au fond, de construire la démocratie après avoir affronté des régimes non démocratiques, hein, que ce soit Václav Havel ou Walesa ou Mandela, par exemple, en Afrique du Sud. Alors Mandela est d'ailleurs un exemple, je trouve, très parlant de charisme de justice également, ou d'égalité d'ailleurs. Tout ça, c'est un peu circulé dans ces... Parce qu'ici, il a fallu fonder une nouvelle démocratie en surmontant une sorte de situation insurmontable, qui paraissait d'une extrême complexité. C'est-à-dire qu'il fallait juger les crimes de l'apartheid tout en rendant possible une transition et tout en faisant en sorte que ce régime soit viable. Et ça, peut-être que ça n'est possible. Enfin, c'est une des questions. Peut-être qu'à ces moments-là, justement, il faut, que suggère d'ailleurs Charles Taylor dans son dernier livre, il faut justement ces personnalités éthiques qui arrivent à faire preuve d'une sorte d'invention éthique. Et là, l'invention, ça a été, par exemple, le comité Vérité et Réconciliation avec Desmond Tutu, c'est-à-dire des personnalités dans la... Qui ont bon, en l'occurrence été ici prisonniers pendant des décennies, qui ont une sorte de légitimité morale très grande et qui parviennent à éviter l'espèce de double risque d'une vengeance qui ruinerait la possibilité de reconstruction et d'une impunité ou d'une injustice qui la ruinerait également d'ailleurs. Donc là, une sorte de trouvaille éthique qui passe par une personne aussi. Le charisme d'égalité, on pourrait en trouver différents exemples. Alors, c'est cet exemple qui m'a été le plus reproché. Non pas celui de Lula. Bon, les gens ont admis que Lula pouvait être une figure de quelqu'un qui, par son itinéraire social même, vous voyez, quelqu'un qui vient, qui a été ouvrier, qui a perdu des doigts dans une machine-outil, dont la femme est morte en couche, qui a une certaine expérience, donc, de ce que veut dire une certaine mise et qui est parvenu tout de même, même si on peut contester son bilan sur des tas de plans, mais à faire reculer la grande pauvreté au Brésil et qui a donc, pense, opéré cette espèce d'avancée de l'égalité dont il était en un sens lui-même un emblème. L'autre exemple, c'est celui-là qui m'était reproché, c'était Obama, pour qui je persiste à avoir une certaine admiration, et je pense, lui aussi, par un certain itinéraire social tout de même assez singulier, par son élection même, d'une certaine façon, qui représentait quelque chose qui, je me souviens, moi j'ai beaucoup d'amis qui me disaient qu'il était impossible que les États-Unis élisent un noir à leur tête, donc ce fait même, d'une certaine façon, marquait une avancée démocratique, et je pense, bon là aussi le bilan plus encore certainement est peut-être décevant, mais on peut tout de même citer un certain nombre de réalisations, et je pense bien sûr qu'un charisme authentiquement démocratique, un charisme qualitativement démocratique, implique des réalisations sociales, juridiques qui traduisent dans la transformation sociale ces convictions. Alors j'en viens pour finir au fond à la situation actuelle et peut-être à son articulation à l'expérience du XXe siècle. J'ai dit tout à l'heure que, bien sûr, nous avions l'expérience de charisme pathologique, de ces leaders qui se prennent justement eux-mêmes pour la loi, qui font régner l'arbitraire le plus total, etc. Bon, c'est une des dimensions du XXe siècle qu'il ne faut évidemment pas cesser de méditer, hein, qui est l'expérience totalitaire. Donc on a vu les risques du pouvoir personnel, on a vu aussi les naïvetés de l'attente d'un homme providentiel, etc. Et je crois que je fais litière, comme on dit, de ces croyances et de ces attentes. Mais donc il y a ces dangers de la personnalité politique. Mais je crois qu'il y a aussi une illusion peut-être inverse, que j'appellerais, moi, l'illusion des bienfaits automatiques de l'impersonnel. C'est-à-dire, là, c'est l'idée, au fond, que moins il y a de personnalité politique, moins il y a de décisions personnelles, plus les choses, mieux les choses se passent. Et je crois que ça a été un grand paradigme, justement, dans les dernières décennies, pour penser la politique. Alors, est-ce qu'il faut l'appeler néolibéral ? Peut-être qu'on peut en discuter, mais en tout cas, cette sorte d'idée de la gouvernance, oui, néolibérale, qui veut que finalement il y ait une chose qui fonctionne, justement parce qu'elle fonctionne toute seule, ou elle est censée fonctionner toute seule, à savoir le marché. Donc, comme le marché est censé fonctionner tout seul, l'idée c'est qu'il faut diffuser le modèle du marché à toutes les activités qui peuvent s'y prêter ou pas d'ailleurs, et en particulier d'ailleurs l'appliquer au management de l'État lui-même. Et on arrive donc à cette dimension au fond très anti-politique d'une certaine forme de néolibéralisme qui veut que le politique soit le champ de l'irrationnel, du conflit, etc. Et donc qu'il faille y substituer une gouvernance où je crois que la crainte de Max Weber trouve une nouvelle actualité, parce qu'on voit vraiment dans ce cas-là, au fond, se substituer à un espace de choix politique et de conflictualité politique, eh bien, ces deux grandes puissances, plutôt anonymes, hein, qui n'ont pas à rendre compte de leurs actes, enfin, qui peuvent avoir à rendre compte, mais sur un mode très complexe et difficile, qui sont la technocratie, que sont la technocratie ou la bureaucratie d'un côté et le marché ou les marchés de l'autre. Et ce mouvement de subordination du politique à l'économique, je pense radicalisé par la financiarisation de l'économie, donne, je crois, une nouvelle acuité à cette interrogation sur la démocratie acéphale et sur un certain risque de dissociation entre le libéralisme ou le néolibéralisme et la démocratie. C'est-à-dire que le libéralisme et le néolibéralisme. Bon, il faudrait distinguer tout ça, mais on peut dire, voilà, en Europe aujourd'hui, il y a un marché qui fonctionne plus ou moins bien. Il y a des institutions qui veillent au respect des droits, et c'est très important, et qu'il y a des cours européennes des droits de l'homme, etc. Ça, on peut dire que c'est un peu le libéralisme et ce sont des choses, en tout cas, de veiller au respect des droits qui est très, très importante. Mais au fond, il peut y avoir... Alors là, je retrouve d'une certaine façon une interrogation de Carl Schmitt sans du tout endosser ses conclusions. Il peut y avoir une dissociation entre ces dimensions-là et la dimension de la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie ? C'est tout de même à un moment ou à un autre le pouvoir du peuple de décider de son sort. Et il y a un moment où on voit bien que la rationalité du marché et de la technocratie européenne peut se dissocier, veiller surtout à la concurrence libre et non faussée, etc., mais ne plus tellement s'intéresser à ce que pensent les peuples des grandes orientations économiques et sociales qui lui sont proposées. Or, j'en cite juste deux exemples, mais qui me semblent assez parlants dans l'introduction. Le premier exemple, c'est ce que ça m'avait assez frappé, c'était lorsque le premier ministre grec précédent, Papandréou, avait dit qu'il allait soumettre le plan d'aide à son pays, le plan d'aide européenne, à un référendum. Alors ça a suscité une sorte de scandale, c'est-à-dire l'idée qu'il ose soumettre ce plan de la rationalité économique par excellence à référendum était vraiment tout à fait déplacé. Donc on a l'impression qu'ici, le peuple fait vraiment facteur de perturbation dans la rationalité économique. L'autre exemple, Papandréou a été de toute façon remplacé par un homme qui est un ancien de la banque Goldman Sachs, comme vous le savez. En Italie, le processus était différent. On s'est enfin, d'une certaine façon, je pense, débarrassé de Berlusconi. Mais pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que Berlusconi a dû partir ? Pas tellement parce qu'il y avait un mouvement social qui réclamait son départ ou une opposition qui l'aurait destitué, mais surtout parce que des signaux très négatifs commençaient à être émis par les marchés et les frasques diverses de Berlusconi devenaient insupportables au marché. Et il a été à son tour remplacé par un homme qui a certainement une vertu autrement trempée que celle de Berlusconi, mais qui est néanmoins lui aussi un ancien de Goldman Sachs, un ancien commissaire à la concurrence libre et non faussée, etc. Donc on a des gens qui ont tout de même vraiment l'imprimatur des marchés, et ces substitutions se font certes suivant des procédures légales, mais elles émanent assez peu de demande populaire. Donc, je pense que c'est un grand problème et c'est un grand souci, parce qu'on voit bien qu'évidemment une réponse possible, c'est dans ce cas-là le recours à des figures charismatiques délirantes, mais qui disent qu'elles parlent au nom du peuple d'ici, etc., et qui vont jouer d'un grand ressort du charisme démagogique. À mon avis, un critère du charisme démagogique, d'ailleurs, c'est la désignation de bouc émissaire. Je pense qu'on peut reconnaître le charisme démagogique à ce qu'il fonctionnait essentiellement à la désignation de bouc émissaire, et donc on voit ce jeu extrêmement dangereux entre un libéralisme dissocié de la démocratie et des figures, je n'aime pas trop le mot populiste pour des raisons diverses, mais des figures de charisme démagogique.
Merci, et voilà. Notre trésorier Louis Lourme vous attend si vous souhaitez adhérer à la Société de philosophie. Merci.